Bonsoir, merci d'être à l'écoute de Grand Format, le rendez-vous des passionnés et des curieux du cinéma. Comme chaque mois, nous recevons ceux qui travaillent à la création de films du 7e art. Ce soir, c'est un grand honneur de recevoir un ingénieur du son. Il a été nominé au César 2017 pour le France, réalisé par François Ozon, et a notamment travaillé sur Taken ou 35 Roms de Claire Denis. Martin Boisseau est notre invité.
C'est pas réveillé. Il aurait fallu que j'aille le tirer par les pieds.
Tu veux prendre des corses ou pas? Dis-moi, tu veux prendre des corses ou pas?
Elle est pas sortable.
Merci Martin Boisseau d'être avec nous dans Grand Format.
Bonsoir.
Et au sommaire de cette émission, dans un quart d'heure, s'il y avait un son pour le décrire, ce serait probablement celui d'une vieille voiture de collection, une chose qui nous fait penser au passé avec un doux bruit que l'on aime entendre. Bonsoir Jocelyn.
Merci Théo et bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, pour commencer, je vais vous parler de Ben Burtt, designer sonore sur Star Wars, puis je vais vous parler de l'exposition sur Clouseau de la Cinémathèque.
Tout de suite après, si on devait le comparer à un son, on choisirait sans hésiter celui de la guitare sèche, symbole de l'improvisation, le soir au coin du feu, mais qui est toujours plaisante à entendre. Bonsoir Luc.
Bonsoir Théo. Alors, à mi-chemin, on aura le traditionnel blind test, et puis en fin d'émission, je vous parlerai du pop-corn au cinéma.
Merci, on parlera également du film Adieu Philippines de Jacques Rosier, le film choisi par notre invité.
Jocelyn Estève, Luc Tailleur, Théo Lopez, Grand Format.
Et juste avant de parler prise de son, mixage, sound design, Luc, tu nous proposes de revenir sur la carrière de notre invité, Martin Boisseau, ici présent.
Bonsoir Martin Boisseau.
Bonsoir.
Alors ne vous inquiétez pas, mais comme pour chaque invité, je me suis permis de farfouiller Internet avec votre nom et j'ai trouvé un de vos témoignages sur le site Vidéodoc, qui, je l'avoue, m'a énormément aidé parce que vous parlez drôlement bien de votre métier. Donc vous dites pour commencer qu'être ingénieur du son consiste à ramener le plus de son possible, dialogue et ambiance, et d'en faire un tout cohérent avec l'image afin de raconter le film au mieux. Pour ça, vous vous posez plusieurs questions. Où poser le micro? Que donner à entendre? Et pour y répondre, vous travaillez en étroite relation avec le réalisateur, le chef opérateur ou même les acteurs. Alors votre découverte du monde du son remonte à l'adolescence, lorsque cloué au lit par la maladie, la radio devient, et je me permets de vous citer encore une fois parce que c'est très joliment dit, la radio devient une porte de sortie d'une enfance à la campagne où il n'y avait pas beaucoup d'ouverture sur le monde. Après le bac, vous filez à Paris et vous entrez au CERIS, le Centre d'études et de recherche de l'image et du son, aujourd'hui rebaptisé l'INFA. Vous vous orientez vers le son, plus attiré par la musique et la radio que par le cinéma. Pourtant, on peut parfois arriver à concilier les trois comme ici à Grand Format, n'est-ce
et
pas
oui,
Théo?
Et oui.
Ensuite, vous partez en Afghanistan. Tout ce que je dis jusque-là, c'est...
Tout à fait.
D'accord, très bien.
Tout est juste.
Vous partez ensuite en Afghanistan dans les années 80 où vous installez des émetteurs radio pour la résistance à l'occupation soviétique. Vous êtes également allé au Kurdistan iranien pour aider au fonctionnement du système de radiocommunication des combattants kurdes. De retour en France, vous faites des news, émissions et magazines pour les radios régionales de FR3. Et c'est par une rencontre finalement que vous entrez dans le monde du cinéma, celle avec Antoine Bonfanti, René et Dominique Levert, la fine fleur, la A-team des techniciens son français de l'époque. Alors petite parenthèse, Théo, Antoine Bonfanti et Dominique Levert qui ont travaillé sur ton film préféré.
La nuit américaine ?
Ouais,
oh oui. Quel plaisir.
Donc voilà parti pour 13 ans d'assistanat, de perches à tenir, de crampes, courbatures et ampoules, tout en étant ingénieur du son sur des petites productions. Aujourd'hui, on peut dire que vous avez travaillé avec des réalisateurs de renom, Paul Vecchiali, Claire Denis, Fabrice Gobert, Luc Besson et bien d'autres. Mais après une bio aussi dodue que passionnante, ma première question sera beaucoup plus basique. Est-ce que vous avez un petit bruit fétiche, comme par exemple le bruit de la cafetière le matin ou le bout de la cigarette qui fait pchit dans l'eau quand elle s'éteint? Est-ce que vous avez un petit son comme ça que vous appréciez?
Non, il y a celui-ci qui fait toujours rigoler tout le monde, c'est...
Ah ouais, un classique.
Ouais, pas mal, et ça passe très bien la radio. Merci Luc pour cette bio. Martin Boisseau, on dit communément que vous êtes ingénieur du son. Qu'est-ce que ça signifie exactement?
Bon, ingénieur du son, c'est un grand titre parce que des écoles d'ingénieurs, bon, d'habitude, on a plutôt tendance à les associer aux ponts et chaussées ou à l'informatique ou des choses comme ça. Donc, bon, quelqu'un qui sait faire marcher un enregistreur et qui sait faire marcher un micro peut se mettre un titre d'ingénieur du son sur sa carte de visite. Enfin, plus prosaïquement, l'ingénieur du son, c'est celui qui va seconder le réalisateur dans dans le cinéma, au cinéma, sur les plateaux de cinéma. C'est celui qui va être le plus comme ça, qui va assister le réalisateur sur tout ce qui concerne le son au moment du tournage. Puisque dans la chaîne sonore de la fabrication d'un film, il y a le premier intervenant, c'est l'ingénieur du son sur le plateau. Ensuite, il y a un monteur son qui prend le relais et des fois, ils sont même deux, les monteurs. Il y a un monteur son et un monteur des directs. Et à la fin, il y a un mixeur qui va mélanger tout ce qui a été ramassé sur le plateau, plus tout ce qui a été ramené par le monteur son et qui va faire une bande son cohérente. C'est à peu près ça le travail du son sur un film.
Du coup, voilà, en cinéma, il y a beaucoup de métiers du son. Est-ce que, comme les métiers de l'image sont supervisés par le chef opérateur, est-ce qu'en son, il y a quelqu'un qui supervise un petit peu tout ça ou la chaîne juste s'enchaîne très simplement comme ça?
Eh bien non, il n'y a pas vraiment de quelqu'un qui chapeaute la bande-son, si ce n'est le réalisateur lui-même. Mais en fait, le réalisateur commence par travailler avec un ingénieur du son sur le plateau, ensuite il travaille avec un chef monteur et ensuite il travaille avec un mixeur. Mais il n'y a pas un directeur artistique... Ça arrive sur les grosses productions, j'ai envie de dire américaines. Il y a des gens qui supervisent toute la bande son, effectivement, depuis le plateau jusque dans les auditoriums de mixage. En France, c'est pas non.
Ça arrive presque jamais.
On se parle si on a envie de se parler.
D'accord. Ça arrive qu'il n'y ait pas de communication entre les différents corps de métier.
Tout à fait, oui. C'est un peu déplorable, mais ça arrive.
D'accord. Et vous, en général, vous occupez quel poste ? Ingénieur du son sur le plateau ? Est-ce que vous faites du mixage, des choses comme ça derrière ?
Non, moi, je fais que le plateau. Je suis que sur les plateaux. J'aime bien, avant même le début des tournages, moi, j'aime bien que les... Parce que de temps en temps, les autres intervenants ne sont pas choisis. Au moment où le tournage démarre, de temps en temps, on ne sait pas qui va être monteur son, qui va être mixeur. Bon, moi, c'est vrai que la configuration que je préfère, c'est quand l'équipe elle est déjà constituée avant le début du tournage et qu'on puisse se parler.
Comme ça, vous pouvez communiquer, dire ce que vous avez fait, parler pour que la personne comprenne votre travail et qu'ensuite vous le transmettez.
Fabriquer ensemble, faire des choses cohérentes, même des fois faire venir le monteur son sur le plateau. Pour qu'il voit ce que c'est que la réalité du tournage, souvent on est très très pris au niveau timing par le tournage lui-même, donc on n'a pas énormément de temps pour faire tout ce qui est à côté et qui est emmagasiner des ambiances, des atmosphères, des choses comme ça. Donc on est toujours un petit peu pris par le temps, on n'a pas le temps de les faire souvent. Donc c'est vrai que si on peut faire venir le monteur son sur le plateau et travailler avec lui pour décider de quelles sont les priorités, de ce qu'il peut faire lui, ce qu'il peut venir faire sur le plateau quand on est sur des choses un peu particulières, des reconstitutions historiques avec des véhicules ou des choses comme ça, où on sait ça va être compliqué 3 mois ou 4 mois après de refaire le son de la diligence ou des choses comme ça.
Donc le monteur son peut venir filer un coup de main sur le passage, sur le tournage, sur le plateau.
Il est le bienvenu.
D'accord. C'est toujours des mains beaucoup. En plus.
Moi j'aime beaucoup, oui. Ouais,
d'accord.
Oui,
et sur le plateau, il y a combien de personnes qui gèrent le son de manière générale sur un tournage moyen, on va dire ?
Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, l'équipe son, c'était 2 personnes. Maintenant, c'est vrai qu'on aime, comme il y a beaucoup de matériel qui se rajoute et qu'il faut mettre en œuvre, c'est vrai que quand il y a un troisième, une troisième personne au son, c'est souvent appréciable pour faire soit des deuxièmes perches, soit assister l'ingénieur du son sur l'installation des micros HF, puisque souvent maintenant on équipe quand même presque systématiquement les comédiens avec des micros, donc ça fait quand même pas mal
je rappelle ce que c'est les micros HF, c'est des petits micros sans fil qu'on met sur les vêtements ou sur
des micros reliés à des émetteurs. Voilà. Les émetteurs sont cachés dans les costumes, les micros sont cachés dans les costumes, et comme ça on arrive à effectivement on récupère, parce que les contraintes maintenant c'est qu'on tourne dans quand même de plus en plus, de moins en moins en studio, de plus en plus en décor naturel, donc souvent on est quand même très très embêtés par la pollution sonore,
par le bruit autour.
Et c'est vrai que le fait d'avoir des micros comme ça très très près des bouches permet de sauver de temps en temps des séquences, sauver des dialogues sur des séquences qu'on pourrait pas enregistrer si on n'était qu'avec
des perches ou des micros plus loin. Luc, tu avais une question.
Oui, ma question va à l'inverse de ce que vous venez de dire, mais justement à l'heure où il y a beaucoup de films qui sont tournés entièrement en studio ou sur fond vert, est-ce que justement, à part les dialogues et les acteurs, il reste une place pour le son sur le plateau alors que des films recréent aussi beaucoup de son en post-production?
Eh bien, je vous invite à regarder le making-of de Tintin qui avait été fait en motion capture.
Le Spielberg,
ouais,
là.
Le Spielberg, ouais, c'est
le
ça.
Tintin de Spielberg, parce qu'ils ont tout joué en studio. effectivement, avec des comédiens qui étaient ensuite modélisés, hein, par rapport à... Enfin, ils avaient tous des combinaisons bizarres avec des points ça pour faire du tracking.
Le motion capture.
Et ben, tout le son était enregistré en direct, curieusement, puisque les comédiens jouaient vraiment les séquences en direct. Et moi, j'ai vu un making-of, il y a un making-of qui existe sur le net où on voit les séquences, le tournage en studio. Donc, les comédiens, ils sont tous dans des combinaisons un peu bizarres avec les trackers. Et en fait, autour d'eux, il y a des installations très compliquées de perches Fisher, c'est-à-dire des grosses perches hollywoodiennes à manivelle, pour prendre le son direct. Parce que ils ont pris le son de, des comédiens qui jouaient les rôles. Donc en fait, ils ont. Dans le studio de tournage, les seuls qui faisaient un travail qui allait aller. Dont la réalité allait aller jusqu'à la salle de projection, c'était les gens du son.
Et non pas l'image, puisque l'image était recréée en 3D derrière.
En 3D derrière. Ah, ouais. Donc ça va.
Oui, je suis rassuré.
et d'ailleurs, quand on parle d'un film, on parle souvent de l'image, du montage, mais plus rarement du son, en tout cas dans les analyses, dans les critiques. D'après vous, ça vient d'où? Pourquoi on accorde moins d'importance de manière générale au son dans les gens qui en parlent ou dans ce genre de...
Parce que c'est plus du domaine de l'inconscient, je crois. Ce qu'on reçoit au son, c'est vrai qu'on est... plutôt attiré attiré par les images au début, mais on met moins l'accent sur le son, mais de prime abord. Maintenant, on voit des grands réalisateurs, ils attachent une importance tout à fait tout à fait primordiale à la colonne sonore. Il n'y a qu'à voir les scénarios de Lynch. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un scénario de Lynch.
J'ai jamais lu le scénario de Lynch, mais c'est vrai que Lynch, pour le son...
Il y en a aussi quelques extraits qui sont visibles sur le net. C'est intéressant parce qu'il y a une colonne sur les dits d'escalier avec ce qui se raconte, quoi, les dialogues. Il y a une colonne à côté où on raconte, où ils disent que la caméra filme, ce que la caméra voit. Et il y a une troisième colonne qui dit ce qu'on entend. Et de temps en temps, on entend des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on voit. Donc, il écrit comme ça à deux ou trois niveaux différents. Donc, lui, et effectivement, quand on regarde les films de Lynch, on se rend compte que de temps en temps, il y a des sons qui nous arrivent dans les oreilles. Et qui ont
il y a une écriture sonore derrière.
Oui, qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on entend. C'est absolument pas redondant. Donc, la création, quand elle est portée comme ça... jusqu'au bout, elle peut amener des choses extraordinaires. Oui.
Et d'ailleurs, même sans aller jusqu'à cette histoire de colonne de Lynch, est-ce que vous, quand vous lisez un scénario, vous arrivez déjà à entendre les sons et à se dire « oui, là, il a pensé à quelque chose sonorement ».
Oui, oui, oui. Il y a sur certains scénarios, on sait qu'il y a une importance qui est mise sur le son dès l'écriture. Oui, on le voit. Bon, c'est pas la majorité des scénarios qu'on lit. La plupart du temps, on est quand même souvent considéré comme plutôt des ingénieurs du texte que des ingénieurs du son. C'est-à-dire qu'on est quand même là pour ramener tout ce qui se dit.
Ouais.
D'une manière la plus propre possible et la plus exploitable possible pour la suite, pour des raisons artistiques, parce qu'il y a des réalisateurs, plein de réalisateurs qui considèrent qu'ils n'auront pas ils ont jamais la vérité du jeu meilleure que sur le plateau en direct, et aussi pour des raisons économiques, puisque faire revenir les comédiens 3, 4, 5, 6 mois plus tard pour rejouer les
scènes et les post-synchroniser après.
En post-synchro,
ça coûte de l'argent. C'est compliqué à faire.
Donc pour ces deux raisons-là, effectivement, on s'attend à ce que l'ingénieur du son qui soit sur le plateau, il ramène déjà...
Du son propre
et
utilisable.
Les dialogues propres. Après, effectivement, si on est dans les meilleures conditions, on peut entamer des dialogues sur le son lui-même.
Quoi. D'accord. Il y a plusieurs niveaux de
travail. Ça peut devenir intéressant. Ouais.
Très bien. Mais dans quelques instants, on continue de parler avec vous de son au cinéma. On parle également personnalité du monde du cinéma avec Jocelyn. Et puis, en attendant, on écoute « Y crois-tu » de Fishback.
Je t'ai bu la nuit dans la mer. Tu
crois-tu de Fishback ? Nous sommes toujours dans grand format avec l'ingénieur du son Martin Boisseau. On parle bien évidemment de nos oreilles au cinéma, ce qui nous donne l'occasion de plonger dans une partie de l'histoire du son avec toi, Jocelyn.
Oui, tout à fait. Pour démarrer cette chronique, je vais vous faire écouter un son.
Mais... Jocelyn, ne serait-ce pas les sabres laser de Star Wars ?
Et si, c'est bien ça, c'est bien le bruit de sabre laser si spécifique de Star Wars. Un son continu mais instable qui touche à des tonalités graves et qui évoque ces bruits que l'on entend quelquefois sous des lignes à haute tension ou près des énormes transformateurs électriques. Il tient à ce quelque chose de l'énergie qui circule, ni vraiment moderne, ni vraiment ancien. En tout cas, ce son inspire la puissance, mais aussi la crainte et la destruction. Bref, il va sans dire que quelque part, ce son nous paraît naturel, en tout cas évident et réaliste. Pourtant, il nous renvoie automatiquement à la saga de George Lucas et ses créations merveilleuses qui nous amènent à cette terrible vérité, ce son n'existe pas. Il a été inventé de toutes pièces par Ben Burtt, designer sonore attitré de la saga Star Wars.
Ben Burtt est aussi connu pour avoir officié sur la saga Indiana Jones, les films Wall-E puis Lao de Pixar avant de rejoindre la nouvelle génération représentée par J.J. Abrams avec les récents Star Trek et la nouvelle trilogie Star Wars.
Et si Burtt est aussi célèbre, c'est bien pour ses créations sonores. On remarque par cette filmographie une grande prépondérance du genre du fantastique ou de science-fiction, en tout cas des films qui en appellent à la création sonore. Pourtant, le travail de chef opérateur son ne consiste pas spécialement à fabriquer des sons. Lorsque cela doit se faire, on fait généralement appel à un bruiteur dont le travail consiste justement à recréer des sons. Ben Burtt, lui, a fait de la création sonore sa spécialité. Un boulot compliqué car les créations sont caractérisées par l'inexistence de l'objet initial. Ce que je veux dire, c'est qu'il doit être bien plus ardu de reproduire le son d'un chasseur Jedi qui rentre en hyperespace que quelque chose qui existe comme une charrette à roues.
D'ailleurs, Ben Burtt a dit lors d'une interview que les effets sonores de Star Wars, c'est ce qui lui donne sa crédibilité.
Et oui, justement, cette crédibilité. Mais comment faire pour rendre ces créations totalement invraisemblables finalement plausible. C'est ici que finalement le son a finalement son mot à dire. Il permet de rajouter ce petit quelque chose à l'image qui nous permet de faire abstraction de toute considération scientifique. Devant Star Wars, on s'en fiche qu'il n'y ait pas de son dans l'espace et d'ailleurs on se demande que serait une bataille spatiale sans les vaisseaux qui hurlent, R2-D2 qui râle ou sans le son des missiles qui explosent. Inventer un son, c'est en tout cas faire des choix qui déterminent une certaine atmosphère. Pour Star Wars, Burtt a envisagé un monde assez sale, terre à terre, un monde qui l'a amené justement à utiliser des sons mécaniques qui peuvent provenir aussi bien de machinerie d'usine ou des différents objets mécaniques qu'il a pu trouver chez lui. Par exemple, ce bruit de sabre laser provient d'un mix entre le mouvement d'un vieux projecteur 35 mm et le bourdonnement d'une télévision cathodique. Et quelque part, on peut déceler dans ce bruit de sabre laser la métaphore d'un mariage totalement improbable de ces deux entités que sont la télévision et le cinéma. Deux entités qui, à l'époque, se tiraient la bourre. Et là, on peut conceptualiser une réflexion proposée par la saga sur le monde contemporain. Mais je vais m'arrêter là, car cette chronique touche à sa fin. Je vais conclure en rappelant avec plus de sérieux que Ben Burtt a été récompensé deux fois aux Oscars pour son travail sur E.T. et Indiana Jones de Spielberg. Mais quand même, avouons-le, c'est véritablement sur Star Wars que son travail nous a marqué. Ses créations ont émerveillé tout un public et continuent encore d'inspirer les créateurs sonores de notre génération. Et alors Martin Boisseau, je viens de parler d'un ingénieur son américain et je voulais en savoir plus sur la différence finalement entre un designer sonore américain et un chef opérateur du son français.
La différence, elle est, c'est pratiquement même pas les mêmes métiers. D'ailleurs, à propos de Lucas, puisque tu faisais une référence à son cinéma, le premier long métrage de Lucas qui s'appelle
THX,
ouais, je ne sais plus le numéro derrière.
1138.
Voilà, celui-ci, il est extraordinaire au niveau de la bande son, parce que presque tout est suggéré au son, tout est amené au son. Hein. Finalement, il y a toute la dimension un peu science-fiction et tout. Elle n'existe que sur le montage son et sur les effets sonores. Alors, je ne sais pas si c'était ce sound designer là.
Je ne crois pas. Non.
Je ne sais pas s'il était déjà sur le premier film, genre Lucas. D'accord. Écoute. Non, moi je viens vraiment pas du tout de cette école-là du sound design. Moi, je viens plus comme tu l'as rappelé tout à l'heure, Luc l'a rappelé tout à l'heure de l'école d'Antoine Bonfanti. Antoine Bonfanti, c'est celui qui est sorti, qui a fait sortir les ingénieurs du son des camions, puisqu'ils étaient, ils faisaient du son direct dans des espèces de camions énormes qui étaient collés, qui étaient souvent garés à côté des studios, et c'était parce que les machines étaient extraordinairement lourdes, donc il fallait, il pouvait pas, il y avait pas d'enregistreur qu'on pouvait emmener à l'épaule. Et quand Nagra a commencé à sortir à la fin des années 50 des enregistreurs, le Nagra 3, qui pouvait se balader puis qui générait un signal pilote qui pouvait permettre de synchroniser l'image et le son avec des caméras 16 mm. Antoine, ça a été un des premiers à sortir comme ça avec le magnétophone à la bretelle et à courir derrière des opérateurs, derrière des réalisateurs pour faire des films qui étaient peut-être presque plus des documentaires. Je pense surtout à Jolimet de Chris Marker qui a été un acte fondateur de tout ce que le son direct allait devenir dans les années 60 et 70. Et il y avait un Nagra 3, il y avait le casque DT48 et le fameux micro M160 de Beyer. Et voilà, c'est devenu une espèce de triptyque un peu sacré quoi pour tous les ingé-sons français en France comme ça dans les années 60-70. Et même encore 80. Donc moi je viens, voilà, j'ai commencé à travailler avec Antoine, donc il y avait cette dimension-là du documentaire, du son, de la vérité sonore, du son direct, de ce que, vraiment de
au plus près de l'action.
Pas du tout fabriqué, fabriqué en studio, pas du tout refabriqué, rebidouillé. Même si j'ai un grand respect et même beaucoup d'admiration pour ces gens-là, mais effectivement je serais bien.
C'est un autre travail.
J'aurais bien du mal à mettre au niveau de ces gens-là, si tu veux. Pour moi, c'est comme un ingénieur du son studio qui a fabriqué les plus grands disques du rock. Tu vois,
c'est pas le même travail, je peux pas
me comparer à ça parce que je serais bien incapable. Je peux faire effectivement assurer de la prise de son sur des orchestres qui sont filmés ou qui sont comme ça enregistrés dans d'un point de vue documentaire. Mais tu vois, c'est pas effectivement c'est des métiers presque différents. J'ai oublié tout à l'heure, j'ai parlé des trois intervenants sur la bande son d'un film. Il y en a un qui est aussi très important et qui se rapproche du sound designer, c'est le bruiteur. Les bruiteurs parce que eux ils sont vraiment dans un vrai travail de.
Et ils sont à quelle échelle du montage du film?
Ils arrivent au moment où le montage image est terminé, le montage son et aussi des fois terminé, parfois terminé, parfois pas terminé, et ils arrivent là à ce moment-là avant l'étape de mixage, et eux ils font beaucoup de création. Alors de temps en temps effectivement sur certains films il faut créer vraiment des sons vraiment très particuliers, des inventions, le bruiteur il peut travailler avec le monteur son pour fabriquer des choses vraiment très très spécifiques et très particulières, et même parfois avec le musicien. Le musicien peut intervenir à ce niveau-là aussi pour mettre une touche particulière sur certains sons.
D'accord, et pour un ingénieur du son, quoi de plus naturel que d'écouter du son pour la petite transition? C'est ce qu'on va faire avec vous, Martin Boisseau, en vous proposant un blind test cinéma concocté par notre désormais maître en la matière, Luc Tailleur.
Alors, n'écarquillez pas les yeux comme ça, c'est rien de méchant. Donc on va vous passer des extraits de films sur lesquels vous avez travaillé durant votre carrière, et vous allez devoir les deviner, et puis après on en parlera un petit peu et si vous avez des anecdotes.
Les micros restent ouverts, vous pouvez réagir quand vous avez la réponse, et Jocelyn joue avec vous parce que lui non plus il ne sait pas de quoi il s'agit.
Alors extrait numéro 1.
Il faut qu'on ne puisse pas l'expulser ni le renvoyer. Il faut qu'on plaît son sang.
Bonjour, je suis allé à l'ambassade de France.
C'est la pirogue.
C'est la pirogue, exactement. Qui date de 2012, réalisée par Moussa Touré. Alors, des conditions de tournage sur une pirogue, ça devait être assez.
Tu vois le son qui rappelle ça, c'est le bruit du hors-bord derrière que t'as dans les oreilles pendant presque tout le temps du tournage. Ça, c'était là. Bon, là, pour le coup, c'est un ennemi. Ce son-là, il faut vraiment arriver à le calmer, même de temps en temps à tricher. On a beaucoup triché certaines séquences quand il n'y avait pas de référence avec l'extérieur et qu'on pouvait ne pas avancer. Comme la pirogue, c'est une très, très, très. Elle est assez profonde, donc on pouvait être au fond de la pirogue et filmer les scènes de comédie sans avoir de référence avec l'extérieur. du coup, dans ces moments-là, on essayait d'obtenir que le moteur hors bord soit
coupé. Soit un peu caché parce que c'est un bruit de fond.
Ça fait une heure et demie ou deux heures de film avec un... comme ça.
C'est spécial, oui.
Et sinon, on a fait des choses, mais on a fait des choses assez rigolotes. C'était à l'époque où l'usage du Kantar multipiste comme enregistreur numérique était en train de se répandre vraiment. Et donc, on pouvait enregistrer... 8-10 pistes simultanément. Et du coup, on a fait des séances d'enregistrement de son seul avec la pirogue, justement, en mettant des micros en couvrant la pirogue de micros sur les vagues d'étrave à l'avant, sur le côté, les remous derrière, un sur le moteur. Et on a fait des sorties en mer en ayant la pirogue était pour nous tout seul, les gars du son. On l'avait, on prenait, on faisait des balades de 3-4 heures avec cette pirogue et qui était couverte de micros. Et du coup, les monteurs son, ils aimaient beaucoup ça. C'est-à-dire qu'après, ils pouvaient prendre ces fichiers-là et ils savaient qu'ils pouvaient passer de l'avant de la pirogue à l'arrière. Ils avaient des choses qui étaient complètement raccord. Ça n'avait pas été pris à des moments différents. Donc c'était assez utile.
D'accord. Bon alors, pour l'extrait numéro 2, on rentre sur la terre ferme, se mettre au sec.
I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills.
C'est Liam Neeson?
Exactement.
Ah, Jocelyn l'avait trouvé aussi, Taken.
Taken de Pierre Morel en 2008. Alors, je crois que l'expression au plus près de l'action est plutôt adaptée à ce film.
Oui,
comment on fait pour prendre du sang quand il y a des... cascades en voiture, des fusillades.
Tu fais beaucoup de choses sur le direct aussi, mais bien sûr là les monteurs son qui ont tous des banques avec des engins mécaniques ou bien des armes automatiques qui tirent à balles réelles, puisque bien sûr sur le plateau tu tires pas à balles réelles. Donc il y a beaucoup de montage sonore sur ces films là, énormément. Quoi. Et après on a fait des choses, mais on a quand même fait la remontée de Liam Neeson sur les quais à contre-courant, là, quand il remonte les quais à contre-sens. Ça, je l'ai fait avec le cascadeur. Je l'ai fait une ou deux fois avec...
En direct.
C'était Stéphane Lavanchy qui conduisait la voiture et ils avaient réglé la cascade pendant 2-3 nuits avec des voitures qui bougeaient pas, quoi, qui étaient tous à des vitesses fixes. Et lui, il se baladait... Il faisait des zigzags entre les voitures pour remonter. Et donc, je l'ai fait une fois avec lui. On avait, pareil, mis des micros sur les moteurs de la voiture pour avoir des accélérations un peu spectaculaires.
Il faut être un peu cascadeur pour faire du son. Hein.
Je l'ai fait sangler sur la banquette arrière. je regardais les vues mètres et je n'essayais pas trop regarder le pare-brise parce que c'était
assez impressionnant.
Oui, c'était assez impressionnant. Et c'est toujours un moment particulier. Quand on a la chance dans une carrière d'ingénieur du son de commencer à enregistrer des voix hollywoodiennes comme ça dans son casque. Parce que là, d'un coup, on est vraiment quand on les premières séquences quand j'entends Liam Neeson, là, d'un coup, je me dis bon, ça y est, je suis au cinéma. Là. Donc, faut garder le contrôle et tout pour essayer de rester dans le moment, de pas se faire embarquer. Mais là, d'un coup, oui, ça démystifie un peu tout ça, quoi. Donc, c'est vrai que c'était à ce moment-là de ma carrière, j'ai envie de dire, c'était intéressant, c'était un super moment de participer à ce genre de film. En plus, Pierre est un réalisateur qui sait exactement comment filmer les scènes d'action, donc c'était d'autant plus intéressant de le voir travailler, quoi. C'était formidable.
Ok, allez, on range les flingues et on se calme un peu avec l'extrait numéro 3.
Ça, c'est l'extrait de Schubert qui est...
Ah, c'est Chopin.
Pardon, excuse-moi.
Dans le film,
je
du coup...
Je plus en rock'n'roll. Alors... Mais donc effectivement, c'est Chopin, oui.
France, de François Ozon. C'est Pierre Niney qui joue du violon.
Ouais.
Et qui va bientôt tomber dans les pommes.
Oui, Ah, c'est, bah, là, ça y est, il est venu. Du coup, quand on fait un film d'époque comme ça, on n'a pas forcément de référence sur bah, l'époque.
C'est inspiré d'un film de Lubitsch. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Tout à fait. Ouais.
L'homme que j'ai tué, si je me souviens bien.
C'était lui-même inspiré d'une pièce de théâtre qui avait été écrite par Rostand.
D'accord. Donc ça remonte assez loin. Est-ce que du coup, vous avez vu le film de Lubitsch et vous en êtes un peu inspiré pour le son ou,
Non, j'ai vu le film de Lubitsch parce que ça m'intéressait de voir ce qu'il avait pris. Et moi, je trouve que ce qu'il a fait, François Ozon, il a fait mieux que Lubitsch, si c'est possible.
Quel beau compliment.
Enfin, Lubitsch était c'est presque le seul film dramatique de Lubitsch. Celui-ci, il était plus connu pour faire des comédies. Et je trouve que non, le film d'Ozon est mieux, le film de François Ozon est mieux que celui de Lubitsch. Mais oui, j'avais regardé. Il y a des séquences qui sont assez presque plan pour plan. Hein. La séquence dans la taverne avec les Allemands qui reçoivent Monsieur Hofmeister là, puis qu'ils le battent froid un peu parce que il a accepté que le Français vienne chez eux. Cette séquence là elle est pratiquement plan pour plan dans le film de Lubitsch. Oui.
Bon allez, on ressort les flingues pour le dernier extrait. Alors, c'est une musique de générique. Petit indice.
Générique télé.
Générique télé. D'une série, donc. Une série des années 90, avec des flingues et des enquêtes.
C'est quoi, c'est Julie Lescaut ?
C'est Julie Lescaut !
C'est
ça,
c'est Julie Lescaut ! C'est parce que tu m'as donné des indices, sinon j'aurais jamais trouvé
ça. Le générique de Julie Lescaut. Mais c'est pas juste pour la blague, en fait. On se demandait aussi, quand on travaille à la télé, quand on travaille au cinéma, est-ce qu'il y a des différences ou pour vous, c'est sensiblement la même chose ?
Non, en gros, sur le plateau, tu travailles de la même manière. Hein. C'est les mêmes gestes, c'est les mêmes façons de travailler. Juste, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que. En cinéma, tu dois faire 4 minutes utiles, 3-4 minutes utiles par jour. En télé, tu en fais 6 ou 7. Donc tu vas deux fois plus vite. Donc,
c'est plus confortable finalement de travailler au cinéma qu'à la télé en tant que technicien ?
Non, je dirais pas ça. Non, ça dépend. On peut faire des choses en télé qui vont vite et qui sont. Le dernier téléfilm que j'ai fait. Qui a été récompensé à La Rochelle, là, qui était l'adaptation du livre de Flavie Flamand. Ça s'est fait dans des conditions plutôt très confortables. On a tourné à La Rochelle pendant un très très peu de temps. On a tourné en 22 jours, mais c'était pas c'était bien écrit, bien réalisé, bien découpé. Donc on était on bossait beaucoup, mais c'était pas non plus la mine, quoi. Et le résultat en plus est vraiment à la hauteur. Enfin c'est un super téléfilm. Je pense qu'il est encore dans le replay FR3. Je sais pas s'il sera encore dans le replay quand l'émission sera diffusée, mais
l'émission passe début décembre, donc peut-être pas, mais mais on peut le trouver peut-être en VOD ou des choses comme ça. En tout cas, merci beaucoup Luc pour ce blind test et pour cette deuxième partie de l'interview avec vous Martin. On parle du film Adieu Philippines, réalisé par Jacques Rosier en 1962.
Je recommande immédiatement le con qui est passé dans le champ.
Il paraît que vous êtes passé dans le champ hier soir au cours de l'émission de Lorenzi.
Vous m'avez vu ?
Non, je n'étais pas de service.
Alors vous croyez tout ce qu'on vous raconte ?
Enfin, c'est exact.
Ouais, c'est exact.
Mais enfin, vous pensez à quoi alors ?
Je pense à mes vacances.
Vous payez ma tête ? Pour l'instant, il s'agit de penser à son boulot. Les vacances, c'est dans 3 mois.
Ouais, mais les miennes, je les sens plus tôt.
Comment ça, plus tôt ?
Oui, je pars au service.
Ah ben oui, mais vous n'êtes pas seul dans ce cas-là. En attendant, c'est pas pour ça qu'il faut négliger son travail, il faut le faire proprement.
Oui, mais il y en a d'autres, ils font pas leur travail.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Adieu Philippines, c'est un film de 1962 réalisé par Jacques Rosier et présenté à Cannes cette même année. Dans le Paris des années 60, Michel, opérateur pour la télévision, doit partir dans quelques mois faire son service militaire. Il rencontre devant les locaux de la chaîne deux jeunes femmes, Liliane et Juliette, inséparables comme des amants de Philippines et qui vont tout faire pour l'empêcher de partir. Martin Boisseau, pourquoi vous avez choisi ce film quand on vous a demandé un film de référence ?
Non, bon, parce que c'est un, voilà, c'est pour moi c'est culte, c'est un, voilà, c'est un de mes films cultes de la nouvelle vague, même avant ceux de Truffaut et avant ceux de Godard. D'ailleurs, Godard a toujours dit que Rosie était probablement le seul qui méritait vraiment le titre de réalisateur de la nouvelle vague.
Mais en 1962, à Cannes, il a encensé le film en disant que c'était celui qui n'avait pas vu ce film ne pouvait pas parler de cinéma.
Ouais, il défendait beaucoup Rosie, et à juste titre, parce que c'est pour moi, je trouve que c'est un film sur l'atmosphère de la France du début des années 60, c'est comme ça, c'est une photographie extraordinaire. Il y a, en plus, bon, le garçon, le héros, il travaille effectivement. Là, il n'est pas opérateur, il est machiniste, en fait.
Ah, il est machiniste.
Il est machiniste.
J'ai utilisé le mauvais mot. Pourtant, je l'ai vu hier soir.
Il est machiniste, mais il y a des séquences qui sont quasiment documentaires au début du film sur l'ambiance, sur les tournages. On voit Jean-Christophe Averty en train d'insulter tout le monde avec son feu sur la langue. Comme ça. Il engueule ses cadreurs. Il est dans une régie en train de vociférer dans son micro, en train de diriger les caméras qui filment.
Je pense série en direct.
C'est autre chose. Ça, c'est la deuxième, le c'est deuxième plateau qu'on voit. Le premier générique, c'est Averty. Ils sont en train de filmer un orchestre de jazz. C'est Maxime Sori et son orchestre. Et le deuxième plateau qu'on voit, c'est Stelio Lorenzi qui est en train de filmer Montserrat. Et il tournait ça, c'est une dramatique télé, et il tournait dans les décors, dans des vrais décors. C'était pas du tout des studios. Donc pendant que l'action se passait dans la grande salle du château, il y avait les cadreurs et les caméras, les énormes caméras vidéo qui passaient par derrière pour aller préparer la séquence qu'on allait avoir après dans les écuries. Tout ça se
faisait
en direct.
Avec du montage en direct.
Tout ça se faisait en direct, donc c'était un tour de force. Donc il a une valeur documentaire formidable, il a une valeur, pour moi, il mélange comme ça le côté un peu superficiel et un petit peu, il y a un côté un peu frivole de la relation entre ce garçon-là et ses deux filles. Et puis il y a en creux, il y a la guerre d'Algérie, puisque tout le film tourne un peu autour de ça, hein, autour du fait que lui, et d'ailleurs dans l'extrait que vous avez passé, il dit, moi je pars au service. En fait, il part en Algérie. Donc tout le film tourne autour de ça.
Il y a un sous-texte.
Oui, tout à fait. Ouais. Et il y a des références comme ça qui sont faites. Il y a un moment, il y a son copain qui revient. Son copain, il fait la gueule. Hein. Il est plus du tout. Il a été transformé. Hein. Il revient d'Algérie et il l'emmène dîner chez lui. Et on voit que le mec, il est complètement, il est hagard quand il revient de la guerre. Il est complètement, il parle plus. Alors que lui, il est. Et donc il voit qu'il sent qu'il va devoir passer dans cette moulinette là. Ce jeune garçon là, donc c'est
un beau marqueur de son époque et tout à fait.
Et puis alors il se trouve que je peux pas dire qu'il m'a donné envie de faire du cinéma, mais c'est un film qu'on a étudié, qu'on a disséqué en analyse filmique quand j'ai fait mon école, moi, qui était le CERIS. Et il y a eu un truc de groupe, puisqu'on était quoi, une vingtaine ou une trentaine à étudier, et on a tous craqué complètement sur ce film là c'est à dire qu'on était capable de se le voir, de se le revoir, mais on a dû le voir 15 ou 20 fois
sans s'en lasser parce qu'il y a
toujours des petits personnages secondaires, des trucs et tout. Il est rempli, c'est comme une BD dans laquelle il y a plein de choses qu'on n'a pas vu forcément la première fois, donc on retrouve tout le temps des tas de trucs. Et alors par contre, au niveau du son, bon, il n'y a pas énormément de son direct.
Et là, oui, ce que j'allais dire, il a tourné tout le film en muet, il le dit ensuite en 2008 sur les bonus du DVD, il dit on a tout fait en muet, ils ont tout post-synchronisé. Qu'est-ce que ça apporte au film, ça, cette post-synchro, est-ce que ça apporte quelque chose au récit?
Oui, il y a un espèce de décalage comme ça qu'on retrouve dans les films de Jean Rouge aussi. Il y a un décalage entre le son et l'image qui fonctionne.
Finalement, ça donne à l'image toute sa substance, au son, pardon.
Ça, parce que je sais pas, les scènes de début qui sont filmées sur les plateaux de télé, je ne sais pas.
Alors moi, j'ai remarqué qu'il y avait un décalage. Alors, je ne sais pas si c'est volontairement décalé, mais en tout cas, lui, il disait qu'il avait tourné le film en muet. Alors, je sais pas.
Oui,
si...
enfin, toutes les parties fiction, mais les parties documentaires, je pense qui sont faites dans les studios de la télé. Je pense qu'elles ont été faites quand même avec du son direct.
Très bien, on continue de...
Je déplore, alors, et je recommande à tous les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le cinéma de Jacques Rosier, c'est quand même, il y a des choses à redécouvrir, hein, parce que après Maine Océan, ou les naufragés de l'île de la Tortue, tout ce qu'il a fait, c'est dommage, c'est un type qui a toujours eu du mal à monter ses films, ça n'a jamais...
Il n'en a pas fait beaucoup d'ailleurs.
Mais non, parce que ça ne marchait pas, il était vraiment pas du tout bankable, le pauvre, mais c'est un grand oublié, on va dire, du cinéma français, Jacques Rosier. C'est dommage parce que c'est il y a des chefs-d'œuvre inconnus
qu'il faut revoir, et on vous invite à le revoir. On continue de parler de son au cinéma avec vous, Martin Boisseau. En attendant, on fait une petite pause musicale avec Jack Johnson, The Sharing Song.
It's always more fun to share with everyone. It's always more fun to share with everyone. If you have to give one to your friend, one to your friend and me. It's always more fun to share with everyone. It's always more fun to share with everyone. If you have one, here is something taking turns. If you've got a ball, bounce it to the gang. If there is a new kid, invite him out to hang. If you've got one sandwich, cut that thing in half. If you know a secret joke, tell it and share a laugh. If you've got one drumstick, give one to your friend. One beautiful rhythm, share a beat that never ends. And if you're feeling lonely, share time with your mom. Share some milk and cookies and sing the sharing song.
Everybody knows.
It's always more fun to share with everyone. It's always more fun to share. It's always more fun to share with everyone.
Share a beat now. Vous êtes toujours en train d'écouter Grand Format avec notre invité, l'ingénieur du son, Martin Boisseau. Et Jocelyn, je me tourne vers toi parce que ce soir, tu aimes une exposition à la Cinémathèque française.
Alors si vous nous suivez sur Facebook, chers auditeurs, vous avez dû remarquer notre emblème, Romney Schneider, dans un film de Clouseau, L'Enfer. Un film inachevé des années 60 pour une image très graphique. Alors c'est une coïncidence, mais la Cinémathèque de Paris a ouvert en ce mois de novembre une exposition suivie d'une rétrospective sur ce grand réalisateur qu'est Clouseau. Ce sera ici un j'aime, tant cet événement me permet de parler de cet artiste si ambivalent.
Clouseau, un réalisateur aux multiples talents qui s'est illustré dans le domaine donc du cinéma, mais aussi du théâtre, de la musique, de l'art contemporain ou de la photographie. Il est surtout connu pour L'Assassin habite au 21 de 1900, un film de 1931, mais pour aussi Le Corbeau, réalisé en 1943, ou La Vérité avec Brigitte Bardot en 1960.
Alors si la Cinémathèque nomme son exposition Le Mystère, c'est bien pour souligner cette aura si brumeuse que dégage Clouseau. Aussi bien adoré que détesté, certains de ses films ont soulevé des vives réactions et même des polémiques. Un de ses films, Le Corbeau, a ainsi été interdit à la Libération en 1945, où certains soupçonnaient Clouseau de collaboration avec l'Allemagne nazie. À une époque où l'on cherchait à retrouver une certaine décence après une guerre indécente, Clouzot a continué à refuser toute facilité et d'affirmer son style. Ses films noirs nous montrent les aspects les plus sombres de notre humanité, où la société est hypocrite, injuste et moraliste, et où les coupables ne sont jamais véritablement méchants, les gentils toujours suspects. Clouzot se refuse à un monde manichéen, il sème le doute et garde bien de nous donner l'origine du mal. Oui, nommer l'exposition Le Mystère, Clouzot est une idée pertinente qui donne le ton. En y rentrant, on découvre photos de tournage, brouillons originaux, scénarios à noter, extraits de films, mais surtout, et c'est bien ce qui était le plus intéressant, des extraits INA d'archives. On y découvre alors une époque où on pouvait encore fumer à la télévision tout en débattant de la direction d'acteur de Clouzot. Une direction assez clivante, tant Clouzot a pu être brutal envers certains de ses acteurs. Et justement, au détour d'un extrait d'émission, on peut l'entendre parler de son rapport aux acteurs et plus largement à la vie.
J'essaie de communiquer mon angoisse aux acteurs, la vie est angoissante et si on ne l'aime pas, ce n'est peut-être pas la peine de vivre.
Clouzot était un homme passionné, terriblement exigeant, voire autoritaire et tyrannique. Mais cela ne peut nous empêcher d'y déceler ici une humanité débordante, en tout cas à travers sa filmographie, car à une époque où Brigitte Bardot était souvent réduite à son statut de sexe symbole, Clouzot a décidé d'en faire la figure d'une génération insoumise à travers un personnage hautement tragique. La Cinémathèque m'a alors bien soin de mettre en avant les différentes facettes de ce réalisateur. Petite déception en revanche, l'exposition se montre bien avare lorsqu'il s'agit des autres talents de Clouzot. Je me demande où sont ses photos, ses enregistrements de concerts, sa collection d'œuvres d'art et tous ces autres trucs. Bon, il s'agit d'une petite déception. Il est vrai qu'on a quand même vite fait le tour. Je vous conseille quand même d'y faire un tour, en tout cas si vous êtes familier avec l'œuvre et l'artiste. Sinon, je vous recommande chaudement ces films actuellement diffusés à la Cinémathèque.
Merci Jocelyn, Estève. Alors Luc, maintenant c'est à ton tour. Ce soir, puisque tu abordes un sujet délicat qui divise les foules, qui déchaîne les passions.
Alors tout d'abord, une petite question pour vous, Martin Boisseau, qui êtes, je le devine maintenant, potentiellement sensible au travail du son dans un film. Est-ce que vous aimez le pop-corn au cinéma ?
Quand j'en mange, oui. Quand je le supporte dans les mains des voisins, non, bien sûr, non.
Eh bien, moi non plus. Et c'est le point de départ de ma chronique. Je n'aime pas le pop-corn au cinéma et ma mère non plus, figurez-vous. Tellement qu'elle a imposé un ultimatum musclé à son voisin de ranger la dernière fois. Vous allez vous asseoir ailleurs ou vous allez vous faire rembourser votre pop-corn. Le malaise était déjà palpable lorsque la responsable a conclu l'affaire en disant que le pop-corn n'était pas remboursable d'une et que rien n'interdisait d'en consommer pendant la séance et de deux. Moi, je pense qu'il faudrait pourtant interdire le pop-corn au cinéma, ou en tout cas le remplacer par de la compote, des marshmallows ou du nougat, mou le nougat de préférence. Serait-ce à qui a eu cette idée absurde de vendre du pop-corn au cinéma ? Nous en venons naturellement à cette deuxième question que tout le monde se pose, mais pourquoi mange-t-on du pop-corn lorsqu'on va voir un film ? Et là, attention les enfants, petite leçon d'histoire. Au commencement, le pop-corn nous vient du pays de l'oncle Sam, lorsqu'au 19e siècle, des baleiniers nord-américains ont découvert au Chili plusieurs variétés de maïs à éclater. Le pop-corn s'impose dans les dictionnaires et fait le buzz. En 1895, dans les rues et partout ailleurs, tout le monde en mange. Partout, tout le monde, sauf au théâtre et encore moins au cinéma. D'une part, personne ne tenait à dégueulasser les moquettes et tapis des salles obscures. De l'autre, personne ne voulait les mâchouillements de ses voisins à l'époque du muet. Mais tout change avec l'arrivée du parlant en 1927 et l'évolution du public. De 25 millions de spectateurs par semaine, on passe à 90 millions dans les années 30. Un par un, les cinémas cèdent et autorisent le dénommé maïs explosif à s'infiltrer parmi les rangées. Et pourquoi s'en priver après tout ? Son prix peu élevé le rend accessible, les dirigeants des salles réalisent des profits monstres en le commercialisant et en le fabriquant eux-mêmes. Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Eh bien, les exploitants réalisent 85% de marge sur le stand confiserie et boissons, et le tout représente 40% de leurs revenus aux États-Unis contre 16% en France. Autrement dit, on n'est pas prêt d'interdire le pop-corn au cinéma. D'un autre côté, on peut se demander si les cinémas continueraient d'exister sans cette source d'argent non négligeable. Et pour finir, une petite astuce, la prochaine fois que vous irez voir un film et si vous ne voulez pas entendre du pop-corn au cinéma, toujours de la part de ma chère maman, lorsque vous entrez dans la salle, arrêtez-vous 30 secondes et repérez les personnes assez âgées pour que leur dentition ne leur permette plus grand-chose, surtout pas de mâcher du pop-corn. Vous risquerez peut-être des ronflements, mais rien ne vous empêche, pas même la responsable, de lui tousser dans les oreilles pour le réveiller.
Oh là, j'adore les conseils de ta maman, oui. Et je pense que je vais les suivre le plus possible.
J'en donnerai plus souvent à l'antenne, parce que je pense que ça peut améliorer le monde.
Et si elle nous écoute, on la remercie, bien évidemment.
Elle nous écoute sûrement. Maman,
Martin Boisseau, je vais revenir. Du coup, on parlait des salles et donc de la diffusion en salle. On vend aussi parfois le son comme un argument commercial dans les salles. Alors, on avait le THX, le Dolby Digital. Maintenant, on nous vend le Dolby Atmos. Est-ce que, en tant qu'ingénieur du son, vous voyez d'un bon œil ces nouveautés-là?
C'est-à-dire qu'on a, tous des... Maintenant, enfin, de plus en plus, les gens ont des home cinéma de plus en plus perfectionnés. Donc, ils sont obligés, s'ils veulent continuer à ce que les gens sortent de chez eux, de proposer des choses un petit peu en plus ou en mieux dans les salles. Donc, oui, pourquoi pas. Oui. Si c'est... bien sûr, si c'est fait à des fins qui aident à raconter des histoires ou bien qui aident à envelopper le spectateur dans une atmosphère encore plus réaliste, oui. Moi, j'ai rien contre. Au contraire, moi, ça me plaît bien d'avoir des installations sonores bien sophistiquées et de voir des choses, mais peut-être pas forcément que pour le cinéma. Je pense que voilà, ça plus après arrive à rendre l'atmosphère d'une salle de concert comme ça, de l'avoir l'impression de se retrouver au milieu de la foule. C'est aussi des choses, puisque de plus en plus les salles de cinéma servent aussi maintenant à des retransmissions live.
Oui, notamment chez GSafe, voilà. Ou l'opéra ou des concerts.
Opéra, théâtre, concert. Je vois qu'il y a un concert de Prince qui est normalement programmé pour une seule soirée, là, qui doit repasser dans des salles. Donc, pour ces choses-là, c'est vachement bien d'avoir des installations sonores à la hauteur, quoi, bien sûr.
Et alors, on parlait des gens qui regardent les films chez eux. De plus en plus de gens regardent les films chez eux sur leur ordinateur et donc souvent avec un son pas terrible, voire dégueu. Dans quelle mesure ça va détruire l'expérience sonore voulue par le réalisateur ?
Ouais, c'est différent, hein. Après, moi, je suis pas un ayatollah du gros son ou du son super fidèle. Moi, j'ai passé énormément de temps en Afrique. J'ai vu des projections dans des salles africaines qui étaient avec des systèmes sonores qui étaient déplorables. Mais en même temps, il y avait l'ambiance, le film, on le devinait parce que la copie était aussi bien esquintée. Ouais. Mais donc après, c'est l'expérience collective ou l'expérience que chacun a avec après on peut aussi reparler de l'histoire de Phil Spector qui mixait les grands tubes au début des années 60, Be My Baby ou Dadoo Run Run et toutes ces choses là, et ils avaient des studios impressionnants, mais ils mixaient ça dans des tout petits transistors avec des haut-parleurs minuscules,
ouais, pour l'entendre comme les gens
vont l'entendre plus tard. Ils disaient voilà, les gamins ils vont entendre ça sur ces haut-parleurs là, donc il faut que ça sonne
sur mes enceintes de studio, voilà, hors de prix.
Il faut que ça sonne là-dessus. Donc si ça sonne là-dessus, après bon, ça sort qui peut le plus, peut le moins. Mais voilà, on peut maintenant. Moi, ça m'arrive, je l'avoue, de temps en temps sur les plateaux de regarder les rushs, comme on n'a pas le temps de le faire, de regarder les rushs sur un iPhone. Si j'entends le texte sur un iPhone et ça veut dire qu'a priori, je suis tranquille.
Le son est bon, quoi. Ça devrait fonctionner.
Ça va. Si on entend ce qu'ils se disent sur ces systèmes-là, c'est qu'a priori, il y a ce qu'il faut. Après, on s'arrangera pour le reste, hein, mais. C'est un bon test, un bon crash test.
Est-ce que, de manière générale, il y a plusieurs mixages pour les films ? Est-ce qu'on fait un mixage cinéma, un mixage télé, un mixage DVD ?
Oui, parce que le cahier des charges n'est pas forcément le même pour la diffusion en salle que pour la diffusion télé. Donc, effectivement, il y a plusieurs mixages. Et il y a même aussi la fameuse version internationale qui est faite, qui est toute la bande-son sans les dialogues.
Juste pour les doublages, pour d'autres pays.
La version qu'on va donner aux distributeurs étrangers pour qu'ils rajoutent les dialogues en serbo-croate ou en
toute autre langue thaïlandais du monde. Et vous avez fait aussi du cinéma d'auteur et des films à plus gros budget. En termes de travail sur le son, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça change?
C'est un peu anachronique, mais généralement moins on a d'argent, plus c'est compliqué. Parce que si on est sur un plateau dans Paris, dans les rues de Paris, et qu'on fait un petit film et qu'on va avoir que deux assistants en régie pour nous aider à maîtriser toutes les pollutions sonores qui vont être autour, ça va être, on sait qu'on va, on va pas arriver à tout calmer. Sur un gros film, bon, c'est un peu, on arrive à 50, 60 personnes. On sait que si on dit bon, ben voilà, neutralisez-moi telle rue, telle rue, telle rue, il y a du personnel professionnel pour le faire. Donc, paradoxalement, voilà, c'est plus compliqué de faire des petits films que des gros, souvent, sur le plateau, hein, pour ça. Maintenant, sur la façon de travailler, non. Bon, j'ai pas de plusieurs positions, petit film ou gros,
oui,
film.
C'est
ou
la même manière
film,
de travailler. Hein,
je fais la même chose. C'est juste,
d'accord. Est-ce que parfois ça peut arriver qu'on fasse plusieurs choses sur un même film, c'est-à-dire de la perche, du mix, du sound design, ou alors c'est vraiment les métiers sont toujours très séparés sur la chaîne du son?
Bah, c'est pareil, ça va dépendre du personnel, mais c'est vrai que si on n'est pas assez et qu'il faut faire une deuxième perche, ça va être l'ingénieur du son qui va prendre la perche en plus du magnétophone sur les épaules et qui va faire une deuxième perche. Donc c'est pareil, si on a les ressources humaines pour mettre quelqu'un d'autre, bon, souvent ça peut être aussi quelqu'un qui est dans l'équipe et qui manifeste le désir de percher, qui dit bon, si t'as besoin d'une deuxième perche, n'hésite pas à m'appeler parce que moi j'aime
ça
bien
peut
faire,
marcher comme ça
faire. ça marche aussi comme ça, ouais.
Très bien, bon, on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup Martin Boisseau d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions. Luc Tailleur, merci à toi. Jocelyn Estève, merci aussi à la rédaction, comme chaque fois Léa Badji, à la réalisation Benjamin Arnaud. Nous, on se retrouve le premier mercredi du mois prochain à 21h et vous pouvez bien évidemment nous retrouver en podcast sur radiocampusparis.org. À très vite.
Au revoir.
I don't know who you are. I don't know what you want. If you are looking for ransom, I can tell you I don't have money. But what I do have are a very particular set of skills. Skills I have acquired over a very long career. Skills that make me a nightmare for people like you. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. And I will kill you.